Radio Django, La Rose des Vents.
Ce soir, dans La Rose des Vents, nous allons rester au Pérou pour parler d'artisanat. Effectivement, l'artisanat traditionnel constitue l'une des principales sources de revenus complémentaires en milieu rural. Ce sont surtout des femmes qui sont actives dans ce secteur à haute valeur ajoutée. Alors, Daniel, êtes-vous sûr que l'on puisse parler de secteur à haute valeur ajoutée ?
Absolument, Fabien. Car d'une part, les recettes de ces activités sont affectées à l'éducation, à la santé et aux besoins quotidiens des familles. Et que d'autre part, cet artisanat permet de conserver un héritage ancestral, c'est hérité des civilisations précolombiennes et de préserver également une identité péruvienne.
Et puis alors, est-ce que l'artisanat serait une manière de se protéger de la mondialisation ?
En quelque sorte, oui. Pour illustrer mon propos, je vous propose un rapide détour par l'Amérique centrale. À la fin du 19e siècle, des femmes Kuna, originaires des îles San Blas, un archipel du Panama, ont développé à la fin du 19e siècle un art textile en réaction à l'arrivée des Européens, la mola. Une pièce de tissu travaillée selon une méthode artisanale qu'elles cousaient sur leur corsage en guise de protestation quand elles étaient contraintes parfois de porter des vêtements de type occidental, une manière de garder son identité.
Mais alors, est-ce qu'il existe une loi au Pérou pour protéger les expressions culturelles traditionnelles et puis les savoirs qui s'y rapportent ?
Non, a priori pas. Le seul pays d'Amérique latine qui a édicté cette loi est le Panama.
Et dans quelle mesure est-ce que l'État péruvien encourage cette production artisanale ?
Disons que ce secteur au Pérou est plutôt soutenu par des ONG et des initiatives privées comme Eini Suisse.
Oui, effectivement. Alors, pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Dalila Atalaya Huerta. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'association Eini Suisse, que nous avons reçue mardi passé, par ailleurs. En parallèle alors des projets d'Eini Suisse liés à la promotion et au renforcement de la souveraineté alimentaire, vous soutenez également des organisations de femmes, dont la principale activité est l'artisanat. Alors, est-ce que... Qu'est-ce qui vous a conduit à soutenir ces femmes, leurs conditions de vie peut-être, l'envie de protéger un savoir qui pourrait s'éteindre ou tout simplement vos origines ?
Bon, je dirais que c'est plusieurs choses à la fois. Mais en fait, tout a commencé avec la participation d'Eini Suisse au marché de la Fedevaco. Donc, vous avez chaque...
Au marché de Noël solidaire, voilà, exactement.
D'accord. Au marché de Noël solidaire qui organise la Fedevaco et Pôle Sud d'ailleurs. Et donc... chaque année, mon mari et moi allons au Pérou et donc on part dans les petits villages qui ne sont pas en fait forcément touristiques et on faisait des achats comme ça, en fait pour les marchés de Noël. Et du coup, petit à petit, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus intéressant, plus intense. Donc j'ai commencé à me renseigner, à aller dans des marchés même à 5h du matin, donc dans des petits marchés où on trouve vraiment les producteurs et les productrices, celles qui tricotent. Et comme ça, c'est devenu presque... C'est devient presque
un rituel.
Passion, un rituel, quelque chose qui est beau. En fait, je commençais à chercher des femmes, des associations des femmes et aussi des familles qui font l'artisanat depuis des décennies, en fait, qui ont hérité des techniques anciennes, etc.
Donc, veut dire que là, vous ne collaborez plus en fait avec nécessairement les femmes de Poyeur. Là, non. Vous rayonnez dans tout le Pérou.
Exactement. Non, c'est pas exactement les femmes de Poyeur. Donc, on dirait qu'ils ont fait ces deux. En fait, l'aide, c'est des petites aides, hein, franchement, parce qu'en fait, on fait pour les marchés du Noël solidaire, on fait les achats. Mais de plus en plus, je suis en train de me mettre ça pour faire aussi un peu que ça devienne quelque chose beaucoup plus, disons, j'ai commencé à créer une petite association, disons, pour vendre des artisanats et en fait, en achetant des artisanats.
Et est-ce que la vente de ces objets au marché solidaire permet de renforcer les projets d'Eini Suisse ?
Exactement, c'est pour renforcer les projets d'Eini Suisse, c'est ça. C'est notre source principale.
Et dans quelle mesure ces activités artisanales sont une ressource alternative pour ces femmes et ces familles au Pérou ?
En fait, ce sont des vraies sources alternatives. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs artisans. En fait, les artisans, ils ont plusieurs statuts. Donc, il y a ceux qui ont un statut formel, disons, qui font plutôt l'artisanat pour l'exportation. Il y a les associations qui sont plutôt soutenues par des ONG qui travaillent pour des, aussi pour des exportateurs et exportatrices. Et il y a des femmes ou des familles qui n'ont pas des statuts, qui fabriquent des artisanats, qui font des artisanats de façon informelle, parce qu'en fait, elles mettent pas des factures et des choses comme ça. C'est juste lorsqu'elles ont l'occasion de vendre et aussi de fabriquer. Oui, de fabriquer ces produits.
Mais par quel biais est-ce que vous, Dalila, et votre association, vous arrivez à soutenir ces femmes ?
On les achète directement. On paye les prix qui est juste.
Mais c'est le prix local ?
C'est un peu plus. Parce qu'en fait, il faut comprendre que Pérou, l'artisanat, en fait, ce n'est pas, disons, quelque chose qu'on va soutenir. Parce que déjà les
Péruviens, vous dites,
les Péruviens
ne soutiennent pas l'artisanat local.
Non, d'abord déjà, vous avez l'artisanat. Par exemple, on peut faire un chemin des tables ou un tapis. Donc, si c'est fait, ça peut prendre un mois si c'est fait en laine de mouton. Ça peut prendre de 5 à 6 mois si c'est fait en laine d'alpaca, en baby alpaca. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, un Péruvien avec un salaire voilà, le salaire moyen, n'a pas des choix, ne peut pas acheter des choses, en fait, des artisanats.
Quel est le salaire moyen au Pérou?
C'est environ les salaires de base, en fait, les salaires minimaux, c'est 250 francs, plus ou moins.
Et un chemin de table en alpaga?
Ça peut coûter au Pérou, donc ça peut coûter plus ou moins ces prix-là, si ce n'est pas plus.
Oui, donc la marge est énorme.
Voilà. Oui.
Est-ce que vous pensez que le tourisme joue un rôle dans ce secteur de l'économie informelle ?
Oui, je crois que le tourisme aide beaucoup. Donc, surtout si, bon, il y a des tourismes et du tourisme. Hein, donc, il y a aussi un peu une déformation. Parfois, en fait, les gens, ils font que pour les touristes. Donc, là, il pourrait y avoir une perte de savoir-faire. Mais il y a quand même des communautés qui maintiennent leur technique ancienne, qui maintiennent la iconographie, etc. Et c'est beau, en fait, les couleurs, le temps naturel, etc. Et ça fait qu'il attire un certain aussi à des touristes. Donc, c'est quand même, je crois que le tourisme aide à que ces savoir-faire soient encore vivants.
Mais ce qui veut dire que ces objets sont acheminés dans les régions où il y a beaucoup de tourisme, je suppose. On ne peut pas aller voir les artisans sur place. C'est plus difficile.
C'est plus difficile parce qu'ils habitent dans des endroits très difficiles à accéder. Voilà. Donc, par exemple, il y a des voyages qui depuis Cusco, qui Cusco c'est la capitale. En fait, vous savez, Cusco c'est là où se trouve Machu Picchu. Et donc depuis, et il y a énormément de savoir, des artisanats. Il y a des endroits où il faut faire 8 heures de voyage en bus ou en combi, donc c'est des petits bus qui n'est pas du tout confortable. Donc il n'y a pas beaucoup de touristes qui arrivent dans ces endroits-là. Donc c'est.
Mais le tourisme ne doit pas être que confort.
Oui, mais vous avez le voilà, c'est.
Et dans quelle mesure est-ce que le gouvernement péruvien soutient les petits artisans ?
De plus en plus, depuis quelques années, il y a plus de soutien. Donc par exemple, et c'est surtout par les ministères des cultures. Donc les voilà. Il y a des soutiens, ils organisent des marchés, etc. Peut-être que ce n'est pas assez, mais il y a.
Il y a quand même une aide.
Il y a une aide, donc ça avance.
Et ce savoir se transmet donc de génération en génération, mais un jour, ne risque-t-il pas de se perdre ?
Moi, je pense qu'en fait, les Péruviens, ils ont beaucoup résisté à la colonisation. Et si vous allez se promener dans certains villages du Pérou, il y a, en fait, les gens, ils ont tout... Ils sont habillés complètement avec des tenues qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. Parfois, en fait, et on voit des objets d'art, en fait, des jupes et des jaquettes vraiment magnifiques avec des couleurs et avec des formes et des figures très 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 belles. Donc, je viens par exemple de savoir que qu'il existait l'écriture. En fait, on a dit toujours que les Incas n'avaient pas d'écriture. Mais dans les objets d'art et
sur les poteries,
il y a vraiment, en fait, ils sont des chercheurs en train de découvrir qu'il y a de l'écriture.
C'est vrai que le Pérou est donc reconnu pour sa grande diversité culturelle, notamment, il y a quelque chose d'exceptionnel au niveau de l'artisanat, que ce soit des pierres taillées en fait aux poteries, des textiles, aux bijoux. Mais est-il vrai que ces objets anciens reflètent des symboles de la culture péruvienne, comme l'abondance, la fertilité et le désir de voir des lendemains radieux ?
Oui. C'est comme ça. Par exemple, il y a des
fresques,
des signes.
Oui, des signes.
Qui représentent. C'est très joli. C'est comme une S allongée. Ça veut dire revient. C'est les femmes qui dans l'époque des Incas, elles faisaient elles tissaient ça. En attendant que les hommes ils reviennent quand ils allaient à la conquête d'autres peuples. Donc elle faisait ça pour attendre ça existe jusqu'à maintenant. En fait, on peut aussi trouver, par exemple, la façon de voir le monde, donc le monde de Ono, le monde de Matno, le monde d'en bas. Et ça, on les trouve aussi dans les tissus, on les trouve dans les tricotes, on les trouve parfois dans les chapeaux. Donc, c'est vraiment... et aussi, bien sûr, dans la poterie. Vous avez parlé tout à l'heure de la fertilité. Donc, justement, à Catacaos, dans le nord du Pérou, en fait, il y a la poterie. Donc, il y a une femme au milieu des plusieurs pots de graines autour d'elle, qui ça signifie exactement
la fertilité.
Donc, c'est vraiment des cultures qui parlent du quotidien des gens, de l'histoire, des croyances, des systèmes, des valeurs, etc.
Donc, c'est un artisanat qui vit.
Ah oui, c'est ça. Je crois que je n'ai pas dit qu'en fait, cette diversité des artisanats, il me semble que c'est aussi lié à la diversité du Pérou. En fait, le Pérou est très riche et très divers. Donc, on a trois grandes régions, donc la côte, les Andes et l'Amazonie. Et les artisanats, on utilise d'abord les matériaux qui existent dans chaque région. Et et dans chaque région, en fait, par exemple, il y a des différences entre un étage et un autre. Et ça fait que même dans une même région, on peut différencier les artisans qui viennent des Cusco, des Puno, alors qu'ils se trouvent dans la même région.
Chaque pièce a son identité, donc.
Vraiment, c'est d'une merveille. Pour vous dire seulement, au Pérou, on a répertorié 400 plats différents, par exemple. Juste pour vous dire la diversité, la richesse qu'il y a. Et ça se reflète dans les artisanats.
On retiendra que cet artisanat vit, mais que c'est aussi l'artisanat, un artisanat péruvien qui figure parmi les plus diversifiés au monde et il s'inspire encore des techniques des plus ancestrales péruviennes. Mettre en la matière une source de revenus complémentaires. Il reste aussi une marque de l'identité péruvienne imprégnée de l'héritage précolombien. Et derrière chaque objet se dessine une langue commune, propre aux Péruviens, marquée par des symboles de l'abondance, de la fertilité et des paris sur l'avenir. Merci Dalila Atalaya Huerta, présidente de l'association Aini Suisse.
Merci à vous.
Merci. Et un dossier signé ce soir, Daniel.